BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est quand même dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. D'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Allez, 19h01, c'est reparti. La deuxième heure de Good evening business tous les soirs, bien sûr, en direct avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir, Audrey.
Bonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous.
Et donc, sans surprise, on continue de vous parler de cette réforme des retraites ce soir, bien évidemment, parce que on est en train de se rendre compte qu'à vouloir amadouer absolument l'opinion, les syndicats, l'opposition, le gouvernement lâche des milliards et est peut-être en train de dilapider une bonne partie des recettes qu'il espérait tirer de cette réforme. On en parlera notamment dans un quart d'heure avec Michel Bogas, c'est le négociateur de Force Ouvrière sur ce fameux dossier des retraites, évidemment.
Et nous parlerons aussi de ce fameux taux d'usure. C'est ce taux plafond au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter. Donc il y a une réflexion en ce moment pour faire en sorte qu'il puisse être réévalué tous les mois et non tous les trois mois, comme c'est le cas actuellement, ce qui arrangerait évidemment les banques et surtout les emprunteurs.
Et puis on parlera de ce qui se passe chez le LVMH parce que la succession de Bernard Arnault s'intensifie. Vous vous rappelez, il y a un mois, c'est le fils Antoine qui prenait la tête de la holding familiale. Là, c'est sa fille Delphine qui prend la tête de Christian. On en parlera avec un spécialiste du secteur du luxe dans un instant.
Et le dernier rendez-vous ce soir, c'est 19h30, Edwige Chevrillon qui reçoit Roland Lescure.
Tout ça plus bien autre chose, on est ensemble jusqu'à 20h.
A tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc le message d'Emmanuel Macron a été très ferme ce matin au Conseil des ministres. La réforme des retraites est indispensable, vitale pour préserver le système qu'il veut, répète-t-il, équilibré en 2030. Sauf que plus les heures passent, plus on est en train de se rendre compte qu'équilibrer le système en 2030, ça sera vraiment très très difficile. C'est ce que nous expliquait Thomas Asportas tout à l'heure. Écoutez.
D'après les prévisions présentées hier par le gouvernement dans le cadre de cette réforme des retraites, eh bien, il n'y aurait en 2030 qu'un excédent de 300 millions d'euros. Ouf. 300 millions d'euros à l'échelle d'un système de retraite qui pèse 340 milliards d'euros de dépenses par an. C'est vraiment l'épaisseur du trait, pour reprendre la formule des opposants à la réforme. Et si vous regardez dans le détail, vous avez effectivement un déficit de 13,4 milliards d'euros en 2030, c'est rien fait. Face à ce déficit, vous avez des recettes supplémentaires de 17,7 milliards milliards grâce à la réforme. Donc ça nous fait à ce stade un excédent de 4,3 milliards. Sauf qu'il faut rajouter le coût des mesures d'accompagnement présentées hier, qui coûte au total 4,8 milliards. Donc on rebascule dans le rouge à hauteur de 500 millions d'euros. Et pour combler ce petit déficit, eh bien l'exécutif fait un tour de passe-passe budgétaire à hauteur de 800 millions d'euros entre les cotisations vieillesse et accidents, maladies et de travail des entreprises. Donc on voit bien que le gouvernement est déjà quand même un petit peu en train de bricoler en jouant avec les cotisations des entreprises.
Et là, on est déjà ric-rac, Thomas, pardon de le dire comme ça, alors que l'examen du texte n'a même pas commencé à l'Assemblée, c'est ça?
Voilà, et on sait déjà que la facture va s'alourdir d'un milliard d'euros supplémentaires, puisque la retraite minimum à 85% du SMIC va finalement concerner tous les retraités. Et puis surtout, il y a deux chiffres qui interpellent. Le premier, c'est que le COR prévoit en 2035 un déficit non plus de 13,4 milliards, mais de 21,2 milliards d'euros. Et donc les nouvelles recettes liées à la réforme ne suffisent pas. Et puis l'autre chiffre, c'est que toutes les prévisions du COR reposent sur un taux de chômage à long terme de 4,5%. Alors qu'aujourd'hui, on est à 7,3% et personne aujourd'hui n'est en mesure de dire si le chômage va descendre aussi bas. Et ce qui est sûr, en revanche, c'est que si le taux de chômage reste autour de 7% en 2030, eh bien, le déficit avant la réforme ne serait plus de 13 milliards, mais de 20 milliards d'euros en 2030. Et donc, la réforme, là aussi, ne suffirait pas à combler le déficit.
Voilà, équilibre rétabli en 2030, ça sera très, très difficile. Thomas Asportas, tout à l'heure avec nous sur BFM Business. Des choses qui ne vont pas, on continue à en découvrir heure après heure. Vous en avez découvert une qui vous choque un peu, Audrey, apparemment.
Oui, Guillaume, en fait, contrairement à ce que Elisabeth Borne a dit, non, la réforme des retraites ne sera pas plus juste pour les femmes. Ce qu'on donne aux femmes, c'est qu'elles pourront intégrer jusqu'à un maximum de 4 trimestres dans leur calcul en fonction de leur congé parental, mais en réalité, ça reste vraiment une mesurette. Et par ailleurs, la décote pèse surtout pour les femmes. Donc, non, rien n'est proposé aujourd'hui pour réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes.
Voilà, pour ce dossier des retraites, on y revient bien sûr dans 10 minutes à peine. Avec Michel Bogas, le négociateur de Force Ouvrière. Et puis la grande question, c'est désormais de savoir ce que vont faire les Républicains. Vont-ils voter le texte ou vont-ils demander de nouvelles contreparties? Écoutez ce que nous disait la députée de l'Orne LR, Véronique Louwagie, tout à l'heure sur BFM Business. Elle voit déjà des choses assez encourageantes dans ce qui a été annoncé hier.
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut une réforme des retraites, que celle-ci est urgente. que nous sommes attachés au système de retraite par répartition et qu'il faut intégrer effectivement la durée de cotisation, que seul le relèvement de l'âge limite de retraite, de l'âge de départ à la retraite n'est pas suffisant. Voilà. Après, il y aura des ajustements. Est-ce que cette durée de 44 ans, oui. Puisque finalement c'est cela qui revient, pour être un petit peu plus précis, et la durée qu'il faille retenir, est-ce que ça n'est pas 43 ans? Je crois qu'il y a des ajustements.
Voilà, Véronique Louvarge, vice-présidente LR de la Commission des Finances à l'Assemblée, avec nous tout à l'heure sur BFM Business. 19h07, est-ce que les choses pourraient bientôt s'arranger pour celles et ceux qui cherchent un crédit IMO? Il y avait une réunion aujourd'hui pour éventuellement réviser tous les mois, et non plus tous les 3 mois, le fameux taux d'usure. Vous savez, ce taux au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. C'est le niveau de ce taux qui handicape le marché et qui cause de gros soucis aux banques apparemment aujourd'hui. Marie-Cœur de Roy.
C'est la Banque de France qui a toujours eu les cartes en main et cette fois, elle va sans doute les abattre. À la clé, une réévaluation mensuelle du taux d'usure. Ce taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter n'est aujourd'hui revu que tous les 3 mois. Un rythme trop lent pour leur permettre d'adapter leur politique tarifaire à la hausse de leurs propres coûts. Les banques étant de plus en plus nombreuses à préférer ne plus prêter du tout plutôt que de le faire à perte, la Banque de France est désormais prête à agir. Il s'agira d'une mesure d'urgence. Il ne faudrait pas attendre avril, nous dit d'ailleurs un courtier convaincu que cette décision permettra de débloquer le marché. On parle pour l'instant d'une entrée en vigueur pour mars et pour une période limitée. Un semestre renouvelable serait l'idéal, nous dit-on, car il faudra aussi observer les effets de cette mesure. Les taux n'augmenteront pas nécessairement plus fort qu'avec le système actuel, mais forcément beaucoup plus vite. On parle déjà de 3,5% voire 4% en moyenne dès le printemps.
Voilà, il faut peut-être être plus réactif parce que les chiffres le montrent, Audrey, les banques prêtent beaucoup moins depuis quelques mois, très clairement.
Oui, absolument. Clairement, depuis la remontée des taux du crédit immobilier, le taux d'usure est vraiment devenu le cauchemar des courtiers et du marché de l'immobilier parce qu'il bloque complètement les octrois de crédit immobilier. C'est l'Observatoire Crédit Logement qui le montre avec un recul de la production de crédit immobilier de 40%, notamment en août et en septembre dernier. C'est énorme.
Voilà pour ce fameux taux d'usure. Aux États-Unis, c'est rarissime, mais le trafic aérien a été totalement interrompu aujourd'hui pendant quelques heures à cause d'une panne de système de l'administration fédérale de l'aviation. Tous les vols au départ du pays ont été cloués au sol. Le trafic a repris, mais on ne connaît pas encore les causes réelles de ces dysfonctionnements. Et puis, je vous le disais, du changement encore à la tête d'LVMH avec la succession de Bernard Arnault qui s'accélère. Il y a au moins, on s'en souvient, c'est Antoine, son fils aîné, qui avait pris la tête de la holding familiale. Là, c'est sa fille Delphine qui prend la tête de Christian Dior, ça s'accélère. On va en parler quelques instants avec Arnaud Cadar qui est avec nous au téléphone, gérant de portefeuille chez Flornoy. Bonsoir Arnaud Cadar, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Sur BFM Business. Est-ce que vous voyez vraiment une nouvelle étape dans la passation de pouvoir entre Bernard Arnault et ses descendants finalement? Comment est-ce que vous regardez ce nouveau mouvement, vous?
Oui, il y a plusieurs dimensions à ces nominations qui ont eu lieu aujourd'hui. D'abord, il y a un besoin évident de renouvellement du comité exécutif au plus haut niveau de LVMH parce qu'il y a plus de 50% du COMEX qui a plus de 65 ans. Donc, c'est un COMEX qui est constitué largement de vieux grognards de Bernard Arnault et il faut assurer une transition progressivement. Donc, c'est quand même très important que ça se fasse progressivement. Il y a un autre point, c'est que c'est des nominations qui ont lieu sur des actifs de grande importance, sur des nominations de grande importance parce que ça concerne les deux plus grands actifs de LVMH, Louis Vuitton et Christian Dior. Oui. C'est donc très important. Et puis, il y a une prime au succès aussi puisque ce sont deux talents qui sont extraordinaires, qui ont fait un super boulot sur les 10 dernières années pour repositionner très fortement Christian Dior et Vuitton au plus haut niveau du secteur du luxe mondial. Et il y a une performance qui, depuis 10 ans, était vraiment exceptionnelle.
Ça nous laisse présager. Allez-y, Arnaud.
Il y a une dernière dimension qui est intéressante aussi. C'est qu'on a deux nominations. Une nomination qui marque bien la suite de Bernard Arnault, puisque c'est Delphine, sa fille aînée. Donc, on est bien dans la transmission familiale du contrôle des opérations aussi au sein de LVMH. Mais on fait quand même, on montre qu'en face, il y a de la place pour les talents qui ne sont pas de la famille. Il n'y a pas de népotisme excessif chez LVMH. Oui. Il y a une volonté aussi de se dire, On a des talents incroyables, il faut les valoriser, il n'y a pas que les héritiers de la famille. Donc il y a une sorte d'équilibre qui est vraiment intéressant dans cette double nomination d'aujourd'hui.
D'un mot, ça laisse présager un Bernard Arnault qui sera peut-être moins présent, voilà, qui va s'effacer publiquement, tout du moins dans désormais chez LVMH pour vous, Arnault, ou pas?
C'est peut-être encore un peu tôt, je pense qu'il a encore quelques bonnes années à offrir. On est sur des nominations quand même sur des filiales du groupe. Hein. Bernard Arnault a toujours incarné l'équilibre du groupe, l'ensemble des 4 ou 5 grandes activités du groupe. Donc, il est à quand même un niveau encore au-dessus. Je pense qu'il est encore présent pour les 4 ou 5 années, mais il prépare tranquillement le terrain avec Antoine Arnault qui était nommé il y a un mois, avec Delphine qui est là, et puis d'autres nominations très importantes chez Vuitton qui sont arrivées.
Il prépare la suite avec sérénité. Merci beaucoup Arnault, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Arnault Cadart, gérant de portefeuille chez Florno, avec nous ce soir sur BFM Business. Dans le secteur de la pharma, on reste en France. On apprend que Novartis pourrait supprimer jusqu'à 400 postes dans le cadre du plan de transformation mondiale qu'il avait lancé il y a 2 ans. C'est le groupe lui-même qui l'a annoncé aujourd'hui. Et puis, gros contrat décroché par Vinci dans l'éolien offshore. C'est l'une de ses filiales qui a été choisie pour concevoir, construire et installer en mer du Nord 2 plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne. Tout ça au large de l'Allemagne. C'est un contrat qui s'élève à plus de 4 milliards d'euros, s'il vous plaît. Jean-Baptiste Huette.
Faire le lien entre les champs d'éoliennes en mer et les stations terrestres, c'est le rôle des plateformes de conversion. Une fois l'énergie électrique produite par les éoliennes, cette dernière est transformée dans de gigantesques plateformes offshore en courant continu haute tension, une norme qui permet de transporter l'électricité sur de longues distances sans perte. 400 km plus loin, une fois sur Terre, l'électricité est reconvertie en alternatif pour aller alimenter les foyers. 2 stations de ce type vont être construites par Cobra IS, la filiale de Vinci, et son partenaire Siemens Energy, mise en service prévue pour 2029 et 2030. Un contrat à 4 milliards d'euros qui illustre bien l'incroyable dynamisme dans les services à l'énergie. Vinci dispose déjà de Vinci Energy qui permet depuis des décennies de générer de substantiels revenus. Cobra IS, c'est le petit nouveau du groupe. Racheté il y a un peu plus d'un an pour environ 4 milliards d'euros, cette filiale spécialisée dans les grands projets énergétiques a déjà permis de rapporter plus de 5 milliards d'euros de contrats.
Voilà pour ce gros contrat décroché par Vinci, 19h13. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. On grappille encore un petit peu de terrain pour débuter la semaine, plus 0,8%, 6924 points ce soir à la clôture. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York à la mi-séance. Comment ça se passe chez vous à Wall Street ?
Ça se passe plutôt bien. On est actuellement sur les plus hauts niveaux de la séance sur les 3 indices américains avec un Dow Jones qui prend 0,5%, un S&P 500 qui affiche une hausse de 0,8% et le Nasdaq plus 1,3%, 10 880 points. C'est la 4e séance de progression pour l'indice Nasdaq. On n'avait pas vu ça depuis bien longtemps. Des indices marché américains qui sont en hausse depuis le début de l'année. Du côté de l'actualité entreprise, c'est assez calme. On attend bien sûr les chiffres d'inflation demain, les premières publications secteur bancaire ce vendredi. Du côté de l'actualité entreprise, on garde un œil sur Tesla qui va investir un peu plus de 770 millions de dollars pour agrandir son usine du Texas. Tesla qui est le top pick 2023 de Goldman Sachs et le titre en profite puisqu'on prend un petit peu plus de 2% sur ce titre Tesla, 122,25 $ dans une tendance donc positive. Ça fait du bien. En attendant les chiffres de l'inflation, l'indice Dow Jones prend 0,5%, le S&P 500 donc 0,8% et le Nasdaq en tête avec un gain d'1,3% à 10 879 points.
Merci beaucoup Sabrina. On vous retrouve toute la soirée, bien sûr, pour suivre la fin de cette séance sur BFM Business. 19h15, la réforme des retraites. Les syndicats qui préparent leur première journée de mobilisation dans 8 jours, le 19. Michel Bogas, secrétaire confédéral Force Ouvrière.
Good evening business. Ils font l'écho.
19h19, notre deuxième invité ce soir sur Good Evening Business, c'est Michel Bogas, secrétaire général confédéral de Force Ouvrière. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir,
monsieur Bogas.
Merci d'être sur ce plateau. Alors, on a vu la photo, hein, une fois n'est pas coutume. Les 9 secrétaires généraux et présidents de tous les syndicats français étaient réunis hier soir pour lancer d'une seule et même voix un appel à la grève et aux mobilisations. Donc, ça aura lieu le 19 janvier prochain. Est-ce qu'il y aurait un geste de la part du gouvernement, hormis le décalage de départ à la retraite, qui pourrait vous faire changer d'avis?
Bah écoutez, aujourd'hui, non. Il me semble que la principale polémique et le principal fait que l'ensemble des organisations syndicales sont opposées à cette réforme, c'est bien le recul de l'âge de départ à la retraite, mais pas que. C'est aussi l'allongement de la durée de cotisation par l'accélération de la réforme dite Touraine, qui prévoit 43 ans de cotisation en 2035, qui sera avancée à 2027.
Et aucune contrepartie donc qui pourrait vous faire reculer, vous le dites.
Non,
mis à part cela, si on sanctuarise ce recul de l'âge de départ légal à la retraite.
Il y a eu des concertations, ce ne sont pas des contreparties. Ce sont des mesurettes. Voilà, on a rectifié quelques erreurs du passé, comme pour les travaux d'utilité collective, les fameux TUC qui ne cotisaient pas, qui ont pu travailler pendant 3 ans, qui n'avaient pas de cotisation et qui ne pouvaient pas être en carrière longue. Comme on répare une injustice en prenant les congés maternité, les congés parentaux dans les trimestres. Mais ça ne fait pas... Enfin, ça fait pas un contrebalancier, ça peut pas être le corollaire, en fait, à un départ plus tardif à la retraite.
Est-ce que vous considérez encore aujourd'hui, est-ce que vous continuez de considérer que cette réforme n'a pas lieu d'être puisque la situation financière du système de retraite n'est pas en danger?
Effectivement.
Voilà. Vous le dites aujourd'hui.
Nous le redisons et nous avons une lecture opposée.
Pouvez-vous nous le démontrer? Voilà.
Nous avons une lecture opposée au gouvernement sur le fameux rapport du Conseil d'orientation des retraites.
Ouais.
En fait, ce sont des projections. Le corps.
Sur la base des hypothèses du gouvernement.
Sur la base des hypothèses du gouvernement.
Ah ouais.
Et j'y reviendrai. Mais le corps dit que jusqu'en 2037, il y aurait effectivement un déficit. Sauf que il le disait déjà pour 2021 et 2022. Or, le système de retraite en 2021 et 2022 est excédentaire. Donc, déjà, on peut considérer que ce ne sont que des projections et des hypothèses.
Ça, c'est du rattrapage post-Covid, on le sait, monsieur Bogassin.
Et l'autre fait, c'est que le gouvernement a souhaité que le corps fasse la base de ses projections sur un taux de chômage à 5%, ce qui crée un artefact, voilà. Et après 2026, le corps a repris un taux de chômage à 7%. Ça veut dire que moins de cotisations, et donc on crée artificiellement un déficit. Le déficit a été créé artificiellement dans les projections, par les chiffres donnés par le gouvernement. On pourrait, si on était de mauvaise foi, parfois on l'est, soupçonner le gouvernement d'avoir créé un déficit artificiel pour pouvoir faire passer sa réforme.
Alors précisément, pour ne pas être de mauvaise foi, parce qu'on n'aime pas ça sur ce plateau, il faut aussi préciser qu'en fait, dans les rapports du corps, il y a à la fois des centaines de pages, avec des centaines de calculs et des centaines d'hypothèses. Et qu'en réalité, la seule mesure viable, c'est la démographie. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit que le nombre de personnes entre 20 et 64 ans, entre aujourd'hui et 2040, reste stable. Donc c'est 37,5 millions de personnes. Or, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, lui, augmente de 33%. Comment est-ce qu'on finance ces 5 millions de personnes en plus si on ne décale pas l'âge de départ à la retraite?
Eh bien, on le finance autrement, peut-être par une augmentation des cotisations des entreprises et des salariés, pourquoi pas?
Alors c'est là, pas, c'est une rupture c'est pas, du
c'est pas
pacte,
un tabou
pacte
pour
social.
Les organisations syndicales, ça l'est pour le gouvernement, mais ça ne l'est pas. On pourrait aussi, par exemple, augmenter le taux d'emploi des seniors entre 55 et 64 ans.
Oui.
Voilà, et ça fait partie des propositions des organisations syndicales, parce qu'on augmente, un, la part de richesse dans le produit intérieur brut. Deux, on augmente les cotisations. Et donc, plus de cotisations égale justement plus de moyens pour payer ces fameuses retraites.
Alors,
et puis, malheureusement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est bien l'espérance de vie en bonne santé. Et là, c'est 62 ans et demi. C'est pas 65 ans. Ça veut dire que on pourrait, avec la réforme, arriver en fait en retraite malade et ne pas en profiter.
D'accord, je vous entends sur ce point, mais donc vous dites qu'augmentation des cotisations dans un contexte inflationniste qui est le nôtre, dans un contexte où le pouvoir d'achat c'est la première préoccupation des Français, vous dites que c'est la bonne solution?
Ben, c'est un choix de société. Est-ce que quand on a travaillé toute sa vie, on souhaite avoir une retraite avec une bonne pension et pouvoir
vivre dignement? Non mais j'entends bien, mais si on ne peut pas boucler, c'est
voilà,
fin de mois aujourd'hui.
Mais les entreprises, de toute façon, enfin, on peut prendre... Soit. Mais si on prend les entreprises du CAC 40, pourquoi on n'a pas créé, par exemple, une taxe sur les super profits, ne serait-ce que pour une fois ou deux, quand il y a des super profits, pour les mettre.
Parce que vous récoltez
pour les mettre,
pas autant de milliards
pour les mettre,
dans, le
pour
réforme,
les mettre dans les caisses des retraites. Ça veut dire, après, c'est le choix de société. Comment on prend, comment on fait la cotisation? En plus, nous avons un système par répartition qui est un des meilleurs. Je rappelle quand même que le système de retraite français est envié par le monde entier. Et aujourd'hui, sous prétexte que ailleurs ça se fait pas comme ça, il faudrait le changer. C'est complètement injuste.
Il y a un débat qui monte en tout cas autour du fait que l'équilibre financier du régime ne sera pas rétabli en 2030, et donc la finalité de tout ça, c'est que ce ne sera pas la dernière des monsieur Bogas. On sait très bien, cette réforme, il y en aura d'autres.
Ce qui est prévu, c'est à peu près 10 à 12 milliards par an.
Oui.
Voilà, de déficit.
dont vous
déduisez ça fait 0,5% du PIB qui fait le produit intérieur brut qui fait 2500 milliards en France. C'est peanuts. Alors que les aides aux entreprises, c'est 6,8% du PIB. Pourquoi on va pas regarder, pourquoi on conditionne pas les aides aux entreprises, par exemple au maintien des seniors en emploi, par exemple à mettre des emplois pérennes, par exemple à arrêter le temps partiel dans certains secteurs comme la grande distribution, comme le nettoyage, etc. pour que justement les femmes qui sont les plus pénalisées puissent avoir une bonne retraite.
Mais alors Michel Bogas, si on en revient à ce qui va se passer le 19 janvier prochain, on peut quand même dire que la conflictualité gréviste, elle s'est largement effondrée depuis les années 70, notamment dans ses formes les plus denses et les plus prolongé. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cet appel à la grève ?
Alors nous, on attend de cet appel qu'il soit massif, et on pense qu'il sera massif. Je rappelle que l'ensemble des salariés de ce pays sont concernés. Tout le monde prend 2 ans, hein. Tout le monde. Il n'y en a pas un d'épargné, à part si, et fort heureusement, les travailleurs souffrant d'un handicap qui conservent quand même un départ anticipé à la retraite à 55 ans. Sinon, pour tous les autres, c'est 2 ans de plus. Et donc, comme tous les salariés de ce pays sont concernés, bien évidemment, il y aura les gros bastions comme RATP, SNCF, les ports, EDOC, etc. Mais il y aura aussi tous les salariés de l'industrie. Toutes les fédérations de l'industrie, par exemple comme la métallurgie, appellent à la grève. Ça veut dire que ça sera massif et il y a 2 objectifs. 1, c'est de démontrer au gouvernement que les salariés ne veulent pas de cette réforme.
Parce qu'ils
et c'est de montrer aussi aux oppositions qu'il faut qu'ils comptent avec la rue et que peut-être ils n'ont pas apporté une majorité au gouvernement sur cette
question. Oui, dans la rue, il n'y a pas de 49-3, ça c'est clair. Maintenant, on précise quand même, Guillaume, vous dites que c'est 2 ans de plus pour tout le monde, mais ça va mettre 8 ans à se mettre en place. Hein.
Oui, mais c'est quand même 2 ans de plus pour tout le monde.
Et on précise quand même que ce n'est pas du jour au lendemain.
Et si vous deviez partir l'an prochain à la retraite, vous ferez 3 mois de plus. Et si vous deviez partir en 2024, vous ferez 6 mois de plus. Et croyez-moi que quand vous arrivez à l'âge de la retraite, eh bien, qu'on vous l'a promis, ça fait, dans 2 ans, vous avez déjà commencé à calculer, à faire des projets pour votre départ à la retraite. Et on va de vous dire il faut faire 6 mois de plus. Eh bien ça, c'est injuste.
Dernière question, Monsieur Bogas, est-ce que vous craignez des débordements à l'image de ces collectifs qu'on a vu émerger du côté des contrôleurs, notamment à la SNCF en décembre? Est-ce que vous craignez ces mouvements un petit peu incontrôlables à l'occasion de ces manifs qui viendraient peut-être à tort, mais ternir l'image des syndicats représentatifs?
Les organisations syndicales ont quand même largement l'habitude d'organiser des manifestations. Nous avons des services d'ordre et les manifestations seront encadrées. Oui. Et s'il devait y avoir des perturbations, ça ne viendra pas des organisations syndicales, ça viendra peut-être de d'autres groupes. Et là, c'est charge à l'État, donc à la police, que de veiller au bon ordre. Mais en tout cas, pour nos organisations, il n'y aura pas de débordement.
Les syndicats, eux, seront responsables. Merci beaucoup, Michel Bogas. Merci de passer nous voir ce soir,
secrétaire
confédéral de Force Ouvrière. Merci beaucoup d'être venu sur BFM Business. 19h27, Edwige Chevrillon nous a rejoint. Elle va nous accompagner
jusqu'à 20h.
Bonsoir, Edwige.
Bonsoir.
Votre invité dans un instant.
L'État, dont parlait monsieur Roland Lescure, en l'occurrence, puisqu'il est ministre délégué en charge de l'industrie. On va parler de réforme des retraites, bien sûr. On va parler de l'impact des réformes des retraites sur les secteurs, l'industrie, vous l'avez mentionné, sur l'énergie. Est-ce que ça peut peser sur la croissance. Et puis on parlera quand même du coût de l'énergie avec le risque sur la relocalisation, avec la tentation quand même américaine qui se fait extrêmement forte.
Voilà pour votre invité Edwige dans un instant sur BFM Business.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Aujourd'hui, mon invité, c'est Roland Lescure. Il est ministre délégué en charge de l'industrie. Bonsoir, Roland Lescure.
Bonsoir.
Merci beaucoup. En plus, vous avez un rôle politique assez fort auprès de Renaissance. Beaucoup de questions à voir avec vous. Les retraites, évidemment. Sujet numéro 1, l'impact de cette mobilisation des syndicats pourrait avoir sur des secteurs, notamment sur l'énergie et notamment sur l'industrie. Est-ce que du coup ça peut créer un climat difficile peut-être pour l'industrie? Et puis on reviendra sur la relocalisation, réindustrialisation, grande ambition du gouvernement, mais on voit bien que c'est difficile. Vous avez écouté comme moi le journal de Faïza Younzi, et puis l'industrie verte, le nouveau projet porté par Bruno Le Maire dont vous dépendez. D'abord sur les retraites, on voit que les Français sont hostiles, si on en croit le sondage de Elabe, hostiles mais résignés. Il y a 53% des Français qui sont prêts à se mobiliser, même s'ils estiment que cette réforme n'était pas forcément nécessaire et qu'elle est sans doute injuste. Ça vous inspire quoi?
Ben, voilà, ça m'inspire d'abord, c'est pas forcément... en général. Non mais
des réformes des retraites, on en a à peu près tous les 5 ans, elles ne sont jamais populaires. Mmh. C'est jamais populaire de porter une réforme qui consiste à dire aux gens, vous allez travailler un peu plus pour équilibrer le système. Donc je ne m'attends pas à être très populaire quand je fais une réforme des retraites. Est-ce que toutes les réformes qu'on porte doivent être populaires? Non. La définition de la politique, c'est parfois de porter des réformes qui concernent l'intérêt général, même si, évidemment, elles ont des conséquences difficiles pour un certain nombre d'intérêts personnels particuliers. Ce qu'on a essayé de faire dans cette réforme, c'est à la fois d'être raisonnable, donc effectivement de rééquilibrer un système qui est en danger, mais en ajoutant plus de justice, plus de capacité à accompagner, et pour moi, c'est très important, ministre de l'Industrie, des professions difficiles, il y en a beaucoup dans l'industrie, des gens qui ont commencé à travailler très tôt, il y en a aussi beaucoup dans l'industrie, de manière à ce que tout le monde ne soit pas traité de la même enseigne.
Mais vous-même, vous avez dit à l'instant, Roland Lescure, qu'effectivement, il y a des intérêts personnels qui peuvent être impactés par cette réforme, et notamment, c'est là où il y a beaucoup d'ouvriers qui vont être obligés de travailler plus, sans doute, 44 ans, et non pas 43 ans, comme l'avait dit Elisabeth Borne. On voit bien que est-ce qu'il y a des marges de progression? Est-ce que vous avez entendu? Parce que comme vous dites, c'est beaucoup dans des professions qui dépendent de votre ministère, qui sont impactées par cette réforme.
Alors d'abord, dans l'industrie, et pas seulement dans l'industrie d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les carrières longues. Carrières longues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, ou avant 20 ans, ou avant 16 ans, votre âge de départ de la retraite sera beaucoup plus tôt. Donc avant 16 ans, ce sera 58 ans. Avant 18 ans, ce sera 60 ans. Et avant 20 ans, ce sera 62 ans. Donc pour ces personnes qui ont commencé à travailler longtemps, ils partiront à la retraite plus tôt que tout le monde. Deuxième sujet très important.
Oui, mais c'est pas le point. C'est pas le point clé.
Important. Il y en a beaucoup dans l'industrie.
Non, mais c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est le point clé, c'est est-ce qu'ils seront obligés de travailler plus de 43 ans?
Ben non, du coup, parce que 20
vous
ans...
Vous êtes sûr de ce que vous dites,
si
parce
vous
que pour
partez,
l'instant, c'est le cas.
Non, mais si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous partirez à 62 ans. En fait, le calcul, c'est plutôt 41, 42 que 43 ou 44. Mm-hmm. Bon. Deuxième point très important, ce qu'on appelle la pénibilité. Ça veut dire quoi? Moi, la semaine dernière, j'étais chez UPSA, qui fait du paracétamol. Ils ont augmenté les cadences. Ils tournent 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, ils font les 3-8. Aujourd'hui, dans le système actuel, pour avoir droit à ce qu'on appelle un compte pénibilité, ce qui vous permet soit de partir plus tôt, soit de vous former, de vous reconvertir, etc., il faut travailler 150 nuits par an. Donc à peu près 5 mois. Hein. Dans le nouveau système, il faudra travailler 100 nuits par mois seulement pour avoir droit à ce compte pénibilité. Donc de manière très concrète, les gens qui travaillent chez UPSA, à Agen, qui nous fournissent du paracétamol, ils vont y gagner au passage à ce système. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va y gagner? Non, globalement, on allonge la durée de travail, et on sait pourquoi, c'est pour équilibrer le système.
Ça veut dire, si vous et moi, on travaille plus longtemps, c'est pas dramatique.
En revanche,
pour les ouvriers, ça peut être
normal.
Plus difficile.
Et donc, on intègre davantage les situations particulières. Chez UPSA, il y a des cadres qui travaillent dans la journée, qui font 9h-18h. Je trouve ça normal que ces gens-là puissent travailler jusqu'à 63 puis 64 ans. Mais ceux qui travaillent la nuit, quand je vais dans une forge avec du travail de nuit, parce que pour compenser la hausse des coûts de l'énergie, toute l'entreprise s'est mise à travailler nuit, c'est normal, dans des températures par exemple extrêmement chaudes. Tout ça, c'est intégré dans la réforme.
Est-ce que la réforme, elle est améliorable? Parce que là, il y a un débat budgétaire. Vous avez été député avant d'être nommé ministre dans le dernier gouvernement. Est-ce que vous vous dites, cette réforme, on va l'améliorer? Il y a des points d'amélioration, notamment sur les 43 ans. Pardonnez-moi d'insister.
Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que notre capacité collective à améliorer cette réforme, elle va dépendre beaucoup des oppositions. Moi, j'entends un groupe, la France Insoumise, qui envisage de déposer 10 000, 15 000, 20 000 amendements, 80 000 amendements, etc., etc. C'est sûr que si on doit discuter, comme c'était le cas d'ailleurs dans la réforme précédente, des dizaines de milliers d'amendements, de syntaxe, qui changent le titre du projet de loi, qui changent la virgule, qui changent le trimestre, pour faire de l'obstruction, on n'aura pas le temps de discuter de l'essentiel. Donc on verra. En tout cas, le gouvernement, la première ministre a dit, elle est prête évidemment à discuter de cette réforme à l'Assemblée. On respecte le débat parlementaire. C'est très important, ce qu'on appelle en temps législatif programmé. Donc il y a un
très
temps
court,
pour le
20
débat.
Jours, 20 jours. Pas très court. Si, parce que c'est justement...
Non, mais moi j'en ai vécu.
La
loi PAC, dont j'étais rapporteur général, elle est passée en temps législatif programmé. On a eu le temps d'examiner 80 articles, qui sont devenus même 150 articles dans la deuxième lecture. Non, le sujet c'est, si on passe le temps législatif programmé à discuter de l'essentiel, il y aura tout le temps pour le débat.
Vous trouvez que c'est suffisant?
Mais c'est beaucoup, 20 jours. Voilà. C'est 4 semaines de temps parlementaire, ouais. Mais vous vous rendez compte, ouais. Enfin, c'est beaucoup de temps.
Regardez, qui permet de discuter. La France, ça durait plus longtemps.
Non, mais c'est un projet de loi qui est important.
Ah bah, qui est très important, technique. Qui est structurant.
Mais qui n'est pas non plus, c'est pas 80 articles. Hein. Oui. Il y a un certain nombre de paramètres importants à discuter, sur la pénibilité, sur les carrières longues, etc., etc. Et ça, le gouvernement est prêt. Si les oppositions décident de jouer l'obstruction, on n'aura pas le temps d'avoir un vrai débat de fond. Ça, on verra, c'est à elles de décider.
Est-ce que vous redoutez une mobilisation massive? Vous avez vu, bon, cette affiche quand même très forte. À peine Elisabeth Borne avait fini de parler, voilà, il y a eu les 8 syndicats qui se sont affichés ensemble en disant c'est inacceptable. Donc, certains disent qu'il y aura des conflits très forts dans l'industrie, dans l'énergie. On va y revenir. Mais est-ce que vous attendiez à une mobilisation très forte?
En tout cas, clairement, il n'y a pas de surprise, puisque même les syndicats dits réformistes nous avaient dit...
Ils sont très virulents.
Ils l'ont dit très publiquement, et depuis un an, Laurent Berger notamment, qu'ils ne souhaitaient pas. Il avait d'ailleurs un mandat de son organisation pour refuser toute hausse de l'âge de départ à la retraite. Donc à partir du moment qu'il y a ce totem, c'est un vrai totem pour Laurent Berger.
Des deux côtés, c'est un totem, hein.
Non.
Aussi de votre côté,
non, c'était un engagement très fort dans la campagne présidentielle qui, quand même, je le rappelle, a été remporté par Emmanuel Macron.
Il faut quand même rappeler que lors de son précédent quinquennat, il avait dit absolument le contraire, qu'il ne fallait pas de réforme des retraites.
Parce que depuis, la situation économique a changé en profondeur. On a eu une crise sanitaire historique, on a des prévisions qui donnent un déséquilibre du système. Mais surtout, il avait dit 65, et on arrive à l'Assemblée avec un projet de loi qui dira 64 ans. On nous avait demandé, notamment les Républicains, mais aussi un certain nombre de voix syndicales, de privilégier la voie dite de l'accélération de la réforme Touraine. C'est ce qu'on a pris en compte. Donc, on souhaite équilibrer le régime. On souhaite aussi en profiter pour renforcer un certain nombre de considérations sur les carrières.
Et sur la mobilisation, est-ce que...
Oui, donc c'est ça. Donc, on n'a pas de surprise sur le fait que tous les syndicats...
Pour vous, donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Non, mais c'est pas une histoire. Vous dites, est-ce que vous redoutez? Est-ce que vous êtes inquiet? J'entends ici ou là les veillées d'armes, etc. Oui. Moi, je suis assez réservé sur ce vocabulaire extrêmement belliqueux. On est dans du dialogue social à la française, qui souvent passe en partie par les rues. On est dans un processus démocratique extrêmement bien identifié, avec un projet de loi, un temps législatif programmé, etc. Et donc, on va avoir une chorégraphie habituelle qui fait qu'on va avoir des manifestations. On verra l'ampleur de les manifestations. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, j'en suis convaincu, c'est que quand je vais visiter des usines, à chaque fois, je demande à rencontrer les organisations syndicales. Les gens que je rencontre, ils me parlent d'inflation, ils me parlent de crise énergétique, ils me parlent d'inquiétude sur leur outil de production, ils ne parlent pas de réforme des retraites. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation première des Françaises et des Français aujourd'hui, mais on verra.
Juste pour reprendre l'expression d'un membre de la CGT qui dit qu'il y a un conflit très dur dans l'énergie. On sait qu'évidemment la CGT est toujours très forte. On l'a vu avec les raffineries, on l'a vu dans le nucléaire, on l'a vu aussi dans les transports, bien sûr. Est-ce que pour vous, quand même, ministre de l'Industrie, pour les entreprises, c'est une vraie préoccupation? Déjà qu'il y a la crise de l'énergie, mais si en plus on retombe vers des blocages, ça peut devenir dangereux.
Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, moi j'entends une journée de mobilisation, le 19, ça arrive régulièrement, ça nous est arrivé quand on a voulu réformer la SNCF. Ça
nous est-ce que vous ne cachez pas un peu la tête sous votre oreiller?
Non, d'abord, je ne vois pas beaucoup mon oreiller ces temps-ci, donc je n'ai pas vraiment l'occasion de me cacher la tête. Mais surtout, non, j'essaye de voir les choses un peu avec une tête froide, de manière un peu raisonnable. Ça fait partie d'une chorégraphie traditionnelle. Chaque réforme des retraites fait l'objet de contestations. Il y avait un totem qui était l'âge de retraite. On a décidé de continuer à avancer parce qu'on a été élu pour ça et parce qu'on souhaite rééquilibrer le système. Les organisations syndicales sont contre. Elles vont manifester contre.
Oui, je pense qu'on va rentrer dans un conflit dur.
Non, mais il y a quand même un... Oui, mais ça c'est
là aussi, on leur demande une chorégraphie.
De leur souhait. On verra. Moi, ce que je sais, c'est que on a fait... La Première ministre a annoncé hier une réforme qui, je pense, est équilibrée. On va avoir un processus démocratique. On a un certain nombre de mouvements politiques qui se sont prononcés pour cette réforme, y compris dans l'opposition. J'espère qu'on va avoir un débat démocratique sain avec des passages obligés, notamment des journées de mobilisation.
Est-ce que ce climat social peut quand même peser sur la croissance? Lorsque vous regardez le rapport qui est publié chaque année, juste quelques jours avant le forum de Davos, où du reste, je passerai toute la semaine, on voit que le cinquième risque à court terme, justement, c'est le risque de division sociale. Et ça, c'est un risque, c'est auprès de centaines de chefs d'entreprise. Et là, c'est un peu le risque qui pèse sur la croissance française, en tous les cas, qui inquiète les chefs d'entreprise.
Non, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques. La crise énergétique, on l'a dit, la guerre aux portes de l'Europe, le risque budgétaire. Il y a des pays aujourd'hui, le Royaume-Uni, pour ne pas le citer, qui font face...
Oui, mais là, je parle du risque social, puisque c'est leur classement.
Nous, notre travail en tant que gouvernement, c'est d'équilibrer tous ces risques. Rééquilibrer le système des retraites, c'est rassurer aussi beaucoup de personnel, y compris d'ailleurs dans les entreprises, des jeunes, sur le fait qu'on va pérenniser ce système de retraite. On pourrait dire, on ne réforme pas, on se cache derrière, non pas notre oreiller, mais notre petit doigt, dès qu'on a un risque d'opposition... On recule. C'est pas le genre de la maison, c'est ni le genre du président Emmanuel Macron, ni le genre de son gouvernement. Donc, on réforme. On le fait.
Inquiétudes des chefs d'entreprise.
Non, mais j'entends.
De l'autre côté.
J'entends. D'un autre côté, ce que j'ai entendu aussi, c'est les organisations de chefs d'entreprise qui disent banco pour la réforme, qui considèrent qu'ils ont été attendus, notamment sur la brutalité, etc. Donc, je pense qu'on a une réforme qui, en tout cas, du point de vue des chefs d'entreprise, répond à des interrogations concrètes qui sont, est-ce que vous allez réformer? Est-ce que vous allez limiter les comptes publics, les déficits publics? Et est-ce que vous allez, finalement, nous donner des perspectives assez claires sur le fait qu'on a besoin de travailler davantage, y compris chez les seniors? Je veux dire, juste, je m'arrête une seconde là-dessus, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle du travail des seniors,
Ah ben si, on en parle beaucoup, quand même.
Oui, mais je veux juste rappeler, en France, il y a un tiers des gens qui ont plus de 60 ans qui travaillent. En Allemagne, c'est
le problème
du taux
d'activité, c'est ça, bien sûr.
Mais oui, mais je veux dire, si on ne prend pas ça à corps, y compris d'ailleurs les chefs d'entreprise qui ne travaillent pas assez là-dessus,
c'est surtout eux,
on ne va pas y arriver. Ouais. On a besoin de travailler davantage pour continuer à financer.
Je voudrais, mais avec vous, comme vous êtes ministre de l'Industrie, il y a quand même beaucoup de questions à vous poser. Juste sur la crise de l'énergie, on va s'attarder trop longtemps, mais malgré tout, il y a un tiers des PME industrielles qui vont devoir renouveler leur contrat en 2023. On a vu que par rapport au fait de pouvoir renégocier avec les fournisseurs d'électricité, il y a quand même beaucoup de PME, de PMI qui rentrent pas toujours dans ça. Est-ce qu'il faut pas élargir, dire toutes les PME, les PMI en dessous de 1000 salariés, eh ben elles peuvent y aller.
Mais ça coûte une fortune.
Oui.
Non, mais c'est des dizaines de milliards d'euros d'élargir.
De renégocier. Non, je ne parle pas du bouclier tarifaire, je parle de la renégociation.
Oui, mais ça revient à ça, si vous voulez. Soit vous mettez le secteur énergétique sur les genoux. Parce que je veux bien qu'il y ait eu quelques excès ici ou là, et d'ailleurs on y travaille, de manière à ce que le fardeau du bouclier tarifaire qu'on a mis en place pour les TPE soit partagé avec les fournisseurs. Mmh. Mais moi je ne souhaite pas que le secteur énergétique français soit sur les genoux. Moi je souhaite qu'EDF investisse dans des réacteurs nucléaires. Je souhaite que Total Energy et Engie continuent à se développer pour assurer la décarbonation, etc. Donc aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, ou heureusement, il n'y a pas de profiteurs dans cette histoire. On a une guerre aux portes de l'Europe. Elle nous coûte beaucoup d'argent parce que c'est un choc énergétique du type de celui qu'on a vécu dans les années 70, on partage la douleur. Le gouvernement français a décidé de protéger énormément les ménages. Et tant mieux, l'inflation y est plus basse qu'ailleurs. Et surtout, la croissance résiste.
Oui. Non, mais là, ici, on a reçu beaucoup de chefs d'entreprise qui sont exactement le modèle. C'est l'ETI qui se trouve dans les territoires, etc. Ils nous disent tous, nous, c'est la catastrophe, on rentre pas du tout.
Alors,
un vrai problème.
Enfin, moi, envoyez-les-moi, mais la plupart des ETI...
Elles du côté Toine, par exemple.
Qui consomment de l'énergie, rentrent dans les aides. On les a simplifiées,
Non, elles ne rentrent pas dans les aides.
Alors, vraiment, faut qu'ils aillent voir et qu'ils fassent la simulation, parce que ça a beaucoup changé depuis mi-octobre. Ce que je peux vous dire, c'est que entre 6 mois qui précédaient mi-novembre, on avait dépensé 15 millions d'euros. On a déjà fait x6.
Là, vous fermez le banc. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas.
Non, ce que je veux dire, c'est que on a un dispositif maintenant très complet. Les ménages, les TPE, les PME, les ETI, les grandes entreprises, y compris les énergies.
Non, les PME, les ETI, il n'y a rien.
Si, mais si, on a l'amortisseur et le guichet. Ouais. Donc, on a quand même tout un dispositif aujourd'hui qui fonctionne.
Encore les conditions d'attribution de l'amortisseur, tout ça, sont très, très, très resserrées.
Non, elles ne sont pas très resserrées. On les a élargies très largement. Et par ailleurs, on le dit peut-être pas assez, mais aujourd'hui, le prix de l'énergie, il a quand même beaucoup baissé par rapport aux folies qu'on avait cet été au printemps et à l'automne, pardon. Et on est sur des niveaux. L'électricité avant la crise, elle valait 100 euros le mégawatt. Elle est montée jusqu'à 1000. Maintenant, elle vaut entre 150 et 180. Donc, c'est des hausses. Mais c'est des hausses qui sont globalement absorbables. Donc, on a besoin d'accompagner les entreprises. On a besoin, ça je le reconnais, de mieux faire connaître nos aides. On a des fonctionnaires dans chaque département. Ça a été simplifié. Très grandement. Mais on a besoin d'aller voir les entreprises pour leur dire, vous y avez droit, aidons-nous à vous aider.
Vous avez fait une petite explication au chef de l'État, parce que lui, il avait l'air de trouver que c'était pas simple.
Oui, et d'ailleurs, c'est suite à cette prise de parole qu'on a quand même encore pas mal simplifié, ouais. Notamment pour les TPE, parce que c'est vrai que pour les TPE, c'était encore
un peu compliqué. Est-ce que ça ne menace pas la réindustrialisation, la bien relocalisation sûr. D'entreprises Safran, les entreprises du médicament beaucoup sûr. Sanofi se posent la question.
Bien sûr. Non. Et donc aujourd'hui, il faut à la fois accélérer tous les plans de décarbonation, d'innovation, d'investissement stratégique, on appelle ça France 2030.
Oui.
Non mais vous dites, ouais, mais on a engagé 11 milliards d'euros en 2022 et on va en engager 54 d'ici 2030. Ce qu'il faut, c'est que cet argent, il arrive. Une des raisons pour laquelle la France s'en sort beaucoup mieux que les autres face à ce choc énergétique, c'est France Relance. On a dépensé 100 milliards d'euros en 3 ans pour relancer l'économie française. L'argent, il est en train de finir d'arriver aujourd'hui. Moi, j'inaugure des usines régulièrement dans l'électronique, dans l'automobile, dans les composantes automobiles qui ont profité de cet argent. Ça permet de soutenir la conjoncture. Il faut le faire pour France 2030 également. Il faut accélérer, il faut simplifier, y compris d'ailleurs, vous l'avez dit, pour les PME, les ETI.
Oui, mais on va prendre un exemple tout bête là, qui vient de tomber, comme on dit dans notre jargon, Roland Lescure. Exelia, donc fabricant de composants électroniques, très important. Hop.
Non mais
pas
ça va nulle part.
Américain.
Non mais attendez, Exelia ça va nulle part, ça reste en France. La différence, c'est qu'on
passe. C'est racheté par les Américains.
Oui, on passe d'un actionnaire.
Un drapeau français ou pas drapeau français.
On avait un drapeau Union Jack, on avait un drapeau anglais, parce que l'actionnaire d'Exelia, il était anglais. Maintenant, il devient américain. On a fait jouer, et ça, c'est une disposition qu'on a votée, que j'ai fait voter dans la loi.
Il fallait que Bercy donne son accord.
Exactement.
Et vous l'avez donné.
Et on l'a donné sous condition. D'abord, l'État n'était pas actionnaire d'Exelia. L'État a pris une action d'Exelia, qui lui donne droit à une action spéciale, qui lui donne droit à la gouvernance et qui, y compris, lui donnera un droit de regard sur toute opération capitalistique, donc éventuellement une vente, à venir. Deux, on a mis un certain nombre de conditions. Exelia, vous l'avez dit, est dans un secteur sensible, donc je ne vais pas vous les énumérer.
Sensible, la défense, oui,
mais
bien sûr, spatiale.
Elles sont listées et Exelia s'engage, et son nouvel actionnaire, à respecter ces conditions. Donc on est passé d'un pavillon anglais à un pavillon américain, avec des conditions supplémentaires et un État actionnaire. On a renforcé aujourd'hui le contrôle sur Exelia. Donc tous ceux qui nous racontent Exelia par à l'étranger...
Valérie Rabault, notamment, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Vice-présidente, elle a tort. Exelia, aujourd'hui,
elle même écrit au ministre
de la France. Oui, et elle nous l'avait écrit avant cette procédure.
D'accord.
La procédure investissement étranger en France... Je fais partie de ceux qui l'ont renforcé avec Guillaume Kasbarian qui m'a succédé à la commission des affaires économiques. On a aujourd'hui une mesure de protection des investissements étrangers en France qui est assez forte. Les Américains ont la même, d'ailleurs, les Anglais ont la même. On était un peu trop naïfs avant. On a renforcé tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer toutes les portes. Je veux dire, quand on ferme la porte, elle se ferme dans les deux sens.
Non, mais parce on sait bien qu'il y a beaucoup de PME françaises qui lorgnent. Il y a même la DGSI qui s'est penchée sur la question en disant
toutes.
Attention.
Non, mais on les regarde toutes. Et je peux
les
vous dire
Chinois,
que
y a
le ministère de la Défense a regardé le dossier aussi. C'est pas juste Bercy qui regarde. Mais si on veut que les entreprises françaises continuent à acheter des entreprises à l'étranger, Bombardier est devenu une entreprise. Alstom, pardon, en achetant Bombardier est devenu une entreprise de classe mondiale. Airbus a accru ses opérations des champions français, moi je suis extrêmement fier qu'on en a. On parlait tout à l'heure d'LVMH qui a accru fortement ses résultats. Mais oui, mais
des champions
français qui font travailler des artisans
Ferropem. Bah justement, alors c'est signé ou c'est pas signé?
Mais Ferropem, c'est une excellente nouvelle.
Donc,
Ferropem,
en deux mots,
une entreprise qui faisait du silicium, qui perdait beaucoup d'argent, qui a annoncé un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2022. On a continué à suivre ce dossier parce que c'est une usine dans un territoire, fin fond de la Savoie, extrêmement enclavé, avec peu d'activité industrielle. Ugitech, qui est une entreprise française à capitaux suisses, là encore, étranger, est-ce que c'est grave? Non. Va reprendre le site pour faire de l'économie circulaire, pour recycler des vieux métaux, pour construire des batteries. Ça, c'est là.
Ça y est, c'est signé?
C'est signé. Ensuite, on a aidé à la recherche et développement. On dit souvent, qu'est-ce que fait l'État pour aider? On a aidé Ugitech à hauteur de 9 millions d'euros pour financer une partie de la R&D. Donc la recherche, c'est fait. Ils reprennent le site. Ils ont ensuite un an et demi d'études pour s'assurer que tout ça va fonctionner. Et ensuite, on va se remettre à produire sur un site qui ne produit plus. Soyons fiers de ces succès. Et franchement, l'État y a joué son rôle, y compris ma prédécesseur Agnès Pannier-Runacher et moi qui ai repris ce dossier depuis 6 mois. Mais ce sont aussi les entreprises, ce sont les salariés, ce sont les élus locaux. Non mais juste, j'insiste.
Oui,
on est en train de réindustrialiser la France. Et on va continuer à le faire malgré les vents de face, l'IRA, la crise énergétique, parce que...
Justement, je voulais dire un mot, il nous reste à peine 3 minutes, Roland Lescure, sur l'IRA, donc ce mécanisme américain qui tente beaucoup, beaucoup d'entreprises, hein, il ne faut quand même pas s'en cacher, moi je peux vous le dire. Il y a Bruxelles, Thierry Breton, tout à l'heure, a fait une déclaration en disant « Bruxelles va riposter, on a déjà 4 propositions à faire, il faut qu'on mette de l'argent, mais il faut que ça aille vite. » Est-ce que la France soutient Thierry Breton ?
Alors, oui. En général, on soutient Thierry Breton, et sur ce cas particulier, on le soutient.
Oui, est-ce que ça peut aller vite ?
Deux, exactement.
Ça, le problème, c'est
pas
vite
un problème
en
de sous. IRA, 360 milliards de dollars sur 10 ans. Mmh. France 2030, 54 milliards d'euros sur 8 ans. Compte tenu de la taille respective d'économie, c'est autant d'argent. Oui. Le sujet qu'on a, et notamment au niveau européen, c'est qu'on ne va pas assez vite, vous l'avez dit. L'IRA, ça va vite. Oui. Et donc, nous, il faut qu'on aille plus vite.
Et c'est immédiat pour les entreprises. Hein. Enfin, ils vous racontent, c'est fou, quoi. Je veux dire, vous arrivez avec votre projet.
Oui. Enfin, pour l'instant, les décrets d'application de l'IRA, ils ne sont pas encore connus. Ça va prendre un peu de temps. Ouais. Mais effectivement, une fois qu'ils auront fait tout ça, ça ira vite. Donc, nous, notre défi, c'est d'accélérer. Il y a des secteurs, l'hydrogène, par exemple, dans lequel on a de l'avance. Et bien, quand on a de l'avance, on ne freine pas, on accélère pour aller encore plus vite, pour attirer des entreprises. Moi, je suis sûr qu'on peut attirer...
Très, très facile aux États-Unis. Chez nous, c'est encore discuté de savoir si c'est l'hydrogène verte ou pas verte.
Alors, il y a un sujet autour de l'hydrogène vert, je pense qu'on va le conclure, parce que là-dessus, on sera extrêmement ferme vis-à-vis de nos collègues allemands. Mais l'hydrogène, pour l'instant, l'Europe a de l'avance. Et je peux vous dire, stay tuned, comme on dit, on va continuer à en avoir. Et moi, je suis sûr qu'on va attirer des investisseurs internationaux pour financer la filière hydrogène en France, parce que la France aujourd'hui, elle est attractive et elle va le rester.
Ouais. Donc l'IRA, donc on a une chance d'avoir notre propre IRA. IRA à l'européenne.
Oui, on a France 2030, faut qu'on accélère tout ça, mais on va y arriver, bien sûr. Moi, je suis extrêmement volontariste. Quand on fait face à une crise, soit on baisse les bras, soit on se serre les coudes et on se retrousse les manches. Moi, je suis dans l'option 2. Jusqu'au bout.
Et on sait que vous n'avez pas d'oreiller. Merci beaucoup, Roland Lescure,
merci
d'avoir été avec nous. Ministre délégué en charge de l'industrie. Voilà, si vous voulez réécouter, revoir, évidemment, cette grande interview, vous pouvez la retrouver soit avec le QR code pour ceux qui nous regardent à la télévision, soit sur le site de BFM Business. Dans un instant, Tech & Co, retour à Paris avec François Sorel et Frédéric Sibotel. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.